Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'actualité reste dominée par la célébration ce lundi 19 août de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En RDC, cette journée revêt une signification particulière en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires, a déclaré Bruno Lemarqui, coordonnateur humanitaire en RDC. À suivre également dans ce journal, bientôt une cimenterie sera implantée dans le territoire de Katanda au Kasaï central. La pose de la première pierre pour la construction de cette société de production du ciment est prévue cette semaine sur les sites concernés. Notre invité est le chef de centre de la régie des eaux à Kalemi. Gilbert Magala parle des défis que rencontre son institution pour fournir de l'eau potable à la population de Kalemi depuis la coupure il y a quelques jours du courant de la SNEL dans la ville. Bonjour à tous. Le monde célèbre ce lundi 19 août la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans son message à cette occasion, Bruno Lemarqui, coordonnateur humanitaire en RDC, souligne que cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Les souvenirs de nos deux collègues tués le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire par des groupes de jeunes armés à Boutembo est encore vif dans nos esprits, dit-il. Bruno Lemarqui, coordonnateur humanitaire en RDC, dans cet extrait choisi par Élisée Tchikota.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée inquiétante d'attaques de groupes armés contre les populations civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Entre janvier et juillet, par exemple, plus de 630 civils ont été tragiquement tués dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri et dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu. Malgré la gravité de ces tueries et de ces souffrances, le monde ne s'est pas suffisamment indigné par cette situation catastrophique. Cette absence d'indignation collective, cette tolérance questionne profondément notre humanité et notre capacité à prévenir et à agir contre la violence systématique qui décime des vies innocentes en République démocratique du Congo. Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est « Agir pour l'humanité ». Et c'est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles. Nous devons agir pour protéger les humanitaires contre la violence. Nous devons agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et contre les civils. Nous devons agir pour la paix. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril les fondamentaux des droits humains, notamment l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse.
Entre-temps, en Ituri, des milliers de déplacés n'ont pas encore reçu d'assistance alimentaire depuis plus d'une année dans plusieurs sites de cette province sinistrée. Conséquence, des cas de décès et de malnutrition, surtout chez les enfants et les personnes de troisième âge et celles vivant avec handicap, se multiplient dans leur lieu de refuge. Certains responsables de ces sites l'ont dit ce lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour eux, la solution durable, c'est le rétablissement de la paix dans leur village d'origine. Isaac Remoyope.
La province de l'Ituri compte à ce jour environ 1,3 million de déplacés disséminés dans plus de 60 sites, dont 6 sont installés à la périphérie de la ville de Bounia. Au site de Kigon, c'est depuis avril 2023 qu'ils ont reçu la dernière assistance en vivres. Selon le président du site, au moins 8 déplacés meurent chaque mois de faim et faute de médicaments. Plus de 250 cas de malnutrition sont également enregistrés actuellement dans ce site qui compte environ 14 000 déplacés. Il plaide pour le rétablissement de la paix qui constitue la solution ultime face à ces défis. Papy Francis, responsable d'ici de Kigons, lance un appel au gouvernement.
Depuis tout ce temps-là, vraiment, les espaces sont en train de rester sans ça pour être assistés. Les cas de mission n'en parlent pas parce que vraiment, c'est au créneau. Donc, ces personnes de troisième âge sont en train de mourir à cascade. Ainsi que les personnes vivant avec handicap, qui ne savent pas où aller. Par mois, on atteint 8 personnes en cas de décès. On n'a pas les prises à charge médicales. Notre cri de l'âme, c'est au gouvernement d'instaurer la paix sur la tenue de la province de l'Ituri.
La situation humanitaire est également préoccupante dans d'autres sites, notamment Mongwalou, où plus de 22 cas de décès sont signalés depuis avril dernier. Des sources humanitaires indiquent que des efforts sont fournis, malgré que les besoins sont énormes et les difficultés d'accès dans certaines localités occupées par les groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Du côté de la province du Nord Kivu, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée dans un contexte particulier des crises multiformes, avec plus de 2,4 millions de déplacés, notamment à la suite de la guerre du M23. Les humanitaires disent devoir en même temps faire face à des épidémies. Ces agences humanitaires font cet état des lieux à l'occasion des activités portes ouvertes cadrant avec cette célébration. Bernard Nyangi.
Face à ces 2,4 millions de personnes déplacées, le choléra, qui affecte déjà plus de 15 000 personnes dans les sites déplacés, et maintenant 60 cas confirmés de Mpox, le Nord Kivu, est au centre d'une crise humanitaire sans précédent. La chef du sous-bureau de OCHA au Nord Kivu estime qu'il faudrait une réelle volonté politique pour amorcer une désescalade et améliorer l'accès aux nécessiteux. Madame Merci Magnala.
Avec les trêves, mais aussi les saisons de fer, il y a les diminutions dans les affrontements. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout le monde qui respecte ça aussi. C'est pour continuer à appeler pour l'engagement politique, pour voir vraiment il y a les grands résultats.
Le gouverneur militaire promet à cette occasion tout son accompagnement aux acteurs humanitaires, ainsi qu'aux millions de personnes déplacées ayant le seul souci de retourner chez eux. Général-major Peter Chirmwami.
Tout en réitérant notre engagement à veiller sur la sécurité de toutes les personnes et leurs biens, je réaffirme la collaboration entre les gouvernements provinciaux pour rendre un appui efficace aux milliers de déplacés et communautés affectées qui n'ont qu'un seul rêve du retour dans leurs milieux respectifs.
À Goma, une série d'activités est prévue durant ces deux jours pour valoriser le travail des acteurs humanitaires dans la province. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où le trafic routier entre les villes de Beni et Butembo est interrompu depuis deux jours. En cause, un camion transportant des marchandises a endommagé un petit pont situé sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Liakobo, à 8 km de la sortie sud de Beni. Conséquence, une centaine de véhicules, dont des camions de marchandises et des transports en commun, sont bloqués sur place. Guylaine Kassassia nous en dit plus.
Jusqu'à ce midi, tous les véhicules transportant des marchandises et des passagers entre Beni et Butembo sont restés immobilisés à Liakobo. Un petit pont situé à cet endroit a été endommagé par un gros camion samedi dernier. Un chauffeur présent sur les lieux explique.
Il y a un véhicule qui a cassé ce petit pont. Nous sommes ici depuis samedi à 19h. Tous les gros camions sont bloqués, seules les voitures peuvent dévier. Le camion est toujours coincé dans le caniveau. Il faudrait élargir la route parce que si elle faisait au moins 8 mètres de large, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Mais cette route ne fait que 4 mètres.
Certains passagers craignent pour l'état de leurs marchandises, dont certaines sont périssables. Rose Kavira, commerçante amenée de vivres de Butembo à Beni, elle témoigne.
Nos marchandises risque de pourrir ici parce qu'on ne sait pas combien d'états cela va durer. J'ai de la banane, du sombé, pendant que nos enfants meurent de faim à Butembo. Il faut que cette route soit réhabilitée.
Depuis ce matin, l'entreprise Gerison Construction, chargée de l'entretien de la route Beni-Butembo, est déjà à pied d'œuvre pour réparer les ponts endommagés. La route Beni-Butembo est une voie importante pour l'exportation et l'importation des marchandises vers l'Ouganda. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Direction la province du Kasaï oriental, où une cimenterie sera bientôt implantée dans le territoire des Katanda. À cet effet, les responsables de la société Y Kasaï Cement SAS, qui a gagné les marchés auprès du gouvernement central, ont rencontré les gouverneurs des provinces les week-ends pour expliquer leur projet. La pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie est prévue cette semaine sur les sites à exploiter. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les travaux d'installation vont se dérouler dans un site riche en calcaire. Selon les études préliminaires, la première phase de production annuelle est estimée à 300 000 tonnes avec une augmentation progressive qui va atteindre 1,2 million de tonnes d'ici 2027. Cette capacité de production permet de réduire d'abord les coûts du ciment sur le marché de Mbujimayi, la dépendance aux importations qui proviennent du Haut-Katanga, de Lualaba et de Kinshasa. La société civile accueille favorablement favorablement ce projet car à lui seul, il constitue un apport d'emploi direct évalué à environ 2000 travailleurs permettant d'insuffler un nouvel essor économique au Kasaï oriental. Selon les géologues, le territoire de Katanda dispose des réserves potentielles de calcaire idéales à la fabrication du ciment. L'usine de fabrication des ciments de Katanda sera exploitée par la société Y Kasaï Cement SAS en collaboration avec Golden Construction. Un conteneur d'équipement est déjà sur place dans les territoires de Benin Chimba. D'après certains observateurs, les deux défis à ce projet restent le manque d'énergie électrique et les conflits intercommunautaires dans les territoires de Katanda. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le ministre des Mines a visité ce samedi à Kolwezi dans les Lualaba l'entreprise minière Metalcol, une filiale des ERG, Eurasian Resource Group. D'après le ministre Kizito Pakabomba, sa présence dans les installations de cette entreprise est de s'enquérir de ses réalisations et de son impact sur l'économie du pays. Pour Jean-Claude Sengawa Lubembe, le chef des opérations au sein des Metalcol, cette entreprise qui produit du cuivre et du cobalt, récupère et révalorise les rejets des minerais. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Metalcol produit le cuivre et le cobalt. Metalcol est en train de retraiter les anciens rejets du concentrateur de Kolwezi qu'on appelait Kazetse en sigle. En son temps, la technologie qui était utilisée ne permettait pas de récupérer tous les métaux qui étaient contenus dans le minerai. Le rendement de récupération du concentrateur de Kolwezi avoisinait 60%. Donc sur les 100% du cuivre et du cobalt qui étaient alimentés, il y avait 40% qui étaient déversés dans les rejets. Et les rejets étaient déversés dans deux endroits. Premièrement, il y avait le bassin conventionnel de Kingamiambo où la Gécamine a déversé tout au plus 45 millions de tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 1,33 et une teneur en cobalt de 0,3%. Deuxièmement, la Gécamine a déversé le rejet dans la rivière Moussonoï, tout au plus 85 millions de tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 1,5 et une teneur en cobalt de 0,33%. Donc, au finish, la rivière a presque disparu. Et donc, parmi les objectifs de Metalcol, nous considérons que le projet Metalcol a un impact environnemental parce que à la fin du projet, la rivière sera totalement reconstituée.
Toute autre chose, à la fonction publique, les fonctionnaires de l'État sont contraints de respecter les nouvelles horaires des services entrés en vigueur depuis le 2 août. Cet horaire leur permet dorénavant de venir au travail à 8 heures pour rentrer à 16 heures. Mais voilà, après plus de deux semaines d'application de cet horaire, des voix s'élèvent pour déplorer les difficultés des transports, notamment auxquelles font face les agents de l'État pour venir à temps au travail. Entre-temps sur place, cette nouvelle mesure a créé un engouement de travailleurs dans les différents bureaux où les places sont limitées. Reportage à Skenzik Biatayoro.
L'encombrement des différents bureaux à la fonction publique est une réalité. La mise en vigueur stricte de nouveaux horaires a été prise au sérieux par bon nombre de fonctionnaires de l'État. Ils viennent maintenant nombreux au travail, ce qui pose un problème d'espace, atteste l'agent de l'État, Gilles Botialina.
Ces mesures sont bonnes, mais normalement ça devrait d'abord commencer par l'amélioration des conditions de travail. Actuellement, dans un bureau, vous pouvez vous retrouver au nombre de 6, 7, voire même 30. On est censé faire des rotations contre des locaux, ça ne peut pas nous contenir par rapport à l'effectif.
Par ailleurs, selon le témoignage, les nouveaux horaires s'appliquent avec peine. La majorité des fonctionnaires de l'État se lamentent des difficultés de transport pour arriver au travail. Touré Kilori Okale, agent au ministère de Budget.
Les conditions ne sont pas réunies, entre autres. La distance, nous sommes dans un milieu qui n'a pas de route, les embouteillages nous bloquent. Au niveau des services, il y a maintenant les chefs de service qui prennent rigueur. Si vous arrivez à 8h30, vous devenez retardataire.
Au cabinet du ministre de la fonction publique, on affirme que la nouvelle réglementation a été prise dans le sens, entre autres, de renforcer la discipline, la productivité du travail de l'État et d'assainir les ressources humaines en vue d'avoir un agent pour poste et un salaire.
Rendons-nous en province du Maniema, où les chefs d'établissement des écoles conventionnées islamiques sont prêts à accueillir les enfants les 2 septembre prochains. Ils l'ont fait savoir à l'issue des travaux préparatoires de l'année scolaire 2024-2025 ce week-end, où les chefs d'établissement de ces écoles ont pris part. Entre-temps, ces derniers formulent quelques recommandations au gouvernement, tant provincial que national, pour la meilleure prise en charge des enfants congolais. On écoute Ami Sizaera, préfet des études de l'Institut Juhudi, qui a parlé au nom de tous les participants au micro de Florence Kizalunga.
Nous, chefs d'établissement des écoles conventionnelles islamiques, recommandons au gouvernement ce qui suit, que le gouvernement central construise et réhabilite les écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions, que le gouvernement paye les enseignants nouvelles unités afin d'améliorer les conditions sociales professionnelles, que l'inspection provinciale de l'éducation et les gestionnaires multiplient les formations en faveur des enseignants afin de renforcer leurs capacités, que le gouvernement provincial aligne les écoles conventionnées dans son projet zéro et école sans tôle au Maniema, que le gouvernement central retire à la Caritas la charge de payer les enseignants des zones à accès difficile et confie cette tâche à la TMB et à la Rao Bank. Et que le gouvernement central autorise le recensement des nouvelles écoles, les dédoublements des classes ou le changement de structure de certaines écoles afin de permettre à tous les enfants de jouir de leurs droits à l'éducation.
Actualité internationale.
L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a officiellement annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Dimanche 18 août, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition du pays, a apporté son soutien à sa candidature. Âgé de 84 ans, Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Son mandat a été marqué par des améliorations infrastructurelles et un ralentissement de l'inflation. Cependant, il a également été critiqué pour des accusations de corruption et de népotisme.
L'invité.
Notre invité est Gilbert Magala, chef de centre de la régie des eaux à Kalemi. Il explique comment sa société distribue l'eau potable à la population de Kalemi en cette période où il y a interruption du courant de la SNEL dans la ville depuis plusieurs jours. On écoute Gilbert Magala dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur Gilbert Magala, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin Munanga.
C'est depuis lundi que la SNEL a interrompu la desserte en énergie électrique sur toute l'étendue de la ville de Kalemi et ses environs. Or, nous savons tous que la régie des eaux dépend de la SNEL pour distribuer de l'eau potable à la population. Et comment est-ce que la régie des eaux se débrouille pour l'instant?
C'est comme on l'avait dit l'autre fois, la SNEL avait prévu les entretiens de leurs machines. Il y a un roulement ou je ne sais pas quoi là qui est en panne. Nous étions saisis par leur communiqué et on avait un problème avec notre groupe électrogène. Nous nous sommes vraiment battus par tous les moyens avec le directeur régional du Grand Katanga et qui s'était déplacé de Lubumbashi jusqu'ici pour ces mêmes problèmes. Et nous avons pu quand même trouver à réparer notre groupe électrogène. C'est un groupe électrogène de 350 kVA qui a des cas pareils quand il y a des problèmes avec la SNEL et nous arrivons quand même à tourner avec notre groupe pour essayer d'alimenter la population de l'eau potable.
Comment est-ce que cela se passe? Est-ce que le groupe tourne 24 heures sur 24 ou bien il y a des interruptions?
Oh, monsieur Paulin, c'est pas facile parce que c'est un groupe de 350 kVA qui nous consomme 50 litres de gazole par heure. Alors, vous comprenez que s'il faut tourner pendant 10 heures ou plus de 10 heures, il faut avoir au moins 500 litres par jour. Cela ne suffit pas. Normalement, il nous faut vraiment du carburant en grande quantité pour tourner beaucoup d'heures. C'est ce qui fait que vous allez comprendre que même tout de suite là, on a essayé de se débrouiller avec un peu de carburant que nous avons alimenté notre groupe et on est en train de fonctionner juste pour quelques heures. Et on n'assure pas toute la ville, mais pendant les 5 heures qu'on va tourner, il y a la partie basse qui aura de l'eau.
Et partie basse, c'est-à-dire?
C'est la partie de la ville jusqu'au niveau point Kichanga, Kainda, industriel, Dave, Lumumba. avec d'autres petits quartiers qui sont dans la partie basse. Parce que la partie haute, c'est la cité. Avec la cité, la capacité de notre machine ne peut pas faire tourner toutes les machines qui sont au captage et qui sont au refoulement. Ça a une capacité de faire tourner que deux machines, deux groupes motopompes qui sont au captage et un groupe motopompe de 300 mètres cubes heure au niveau du refoulement. C'est ce qui nous permet quand même d'arroser d'abord la partie basse.
Donc on peut dire que pratiquement vous avez instauré un système de lestage. Aujourd'hui c'est tel quartier et demain tel autre quartier qui sera desservi en eau potable.
Ça dépendra du moyen de carburant. C'est à cette occasion ici même que je peux demander à tous ceux qui trouvent qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets maintenant là, d'en faire vraiment une provision.
Le manque d'eau de la régie des eaux aura beaucoup de conséquences, notamment les problèmes de maladies d'origine hydrique. Avez-vous aussi parlé avec certains partenaires qui œuvrent dans ces secteurs?
Bon, au fait, ça, c'est pas un travail de la régie des eaux. Nous avons fait les communiqués, acquis des droits. Et il y a des partenaires de la santé qui sont passés. Nous avons parlé avec eux pour le problème de choléra qui, vous savez très bien que la ville de Calémie, dans peu de temps, tout le monde qui descend vers les lacs pour s'approvisionner en eau, c'est de l'eau qui n'est pas potable. Et ça va vraiment faire des problèmes de santé. Nous les avons informés et nous attendons jusqu'à ce qu'on va arriver au 10e jour. On ne sait pas, c'est la technique. Ça peut arriver où on dépasse les 10 jours et ça devient un problème. Parce qu'effectivement, nous, on ne saura pas répondre aux besoins vraiment de la population sans qu'il y ait du carburant dans notre groupe électrogène.
Pendant ce temps, comment se fera la facturation? Parce que il y aura une dizaine de jours qui ne sera pas pratiquement consommée normalement par vos abonnés.
Oui, effectivement, parce que déjà, nous sommes au mois d'août. La facturation du mois de juillet a été consommée en entièreté. Et ça, nous allons distribuer les factures, pas de problème. Mais pour la préparation de la facturation du mois d'août, nous allons tenir compte des consommations. Parce que s'il y a 10 jours où on n'a pas fonctionné en d'autres parties, les consommateurs vont les remarquer sur les compteurs. Et quand nous allons faire le prélèvement des index, nous allons constater effectivement qu'il y aura baisse parce qu'on n'a pas donné de l'eau pendant 10 jours.
Monsieur Gilbert Magala, je vous remercie.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information, mise en onde par Jean-Noël Mokondo, Martin Seboudjangwe et Élisée Tchikota-Tivueta, l'ont respectivement supervisé et coordonné. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir écoutée.